plus 1, 2 et 2 mesures piano comme écho. Encore une fois.
Come on, man. Sous the phone line. Look at where you stand. People, we're not going to be doing any Mardi Gras parades this season. We can't do any better than this. You cannot be as good as, you must be better than.
15h sur France Culture, vous passez par Continent Musique et on commence en fanfare sous la direction de Wilbert Rawlings Jr. à la tête du Chosen Ones Brass Band venu du lycée Landry Walker de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Ils sont les invités des villes et musiques du monde qui les invitent à visiter différents collèges de Seine-Saint-Denis. Organise cette année la première édition de la folie des fanfares. Ce sera samedi à la Villette à Paris et le directeur de l'association des villes et musiques du monde, Kamel Dafri, est avec nous dans le studio. Enfin, vous entendrez aussi Marc Chaunier, un homme aux vies multiples, attaché de presse pour le festival Banlieue Bleue, entre autres, mais aussi auteur et chanteur sous le nom de Gaspard Lanuit, un clin d'œil à Ravel que vous aurez peut-être l'occasion de nous expliquer. Vous êtes partagé entre le collectif et le singulier, hein, si je comprends bien, puisqu'entre les groupes, les festivals et puis la littérature qui a une part très importante. Alors vous êtes venu avec un disque personnel et vous avez eu beaucoup de mal à choisir.
Oui, j'avais le choix entre plusieurs disques. J'ai pris un disque des Moody Blues qu'on écoutera à la fin. Et c'est le singulier au service du collectif.
Voilà. Vous avez tout défini. Et puis, vous entendrez aussi au milieu d'émission Marc Marel, directeur de la discothèque de Radio France, qui viendra avec une sélection de vinyles venus de la Barbade. On commence, puisqu'ils sont au complet dans notre studio, avec le Chosen One Brass Band. Une idée de défilé. On est en direct sur France Culture. Une idée de défilé à la radio. Et Wilbert Rawlings, puisque c'est vous le chef d'orchestre, je vous laisse donner le go et me dire le morceau qu'ils vont interpréter tout de suite pour nous.
Ok, well... Again, bonjour. The Chosen One Brass Band, we're going to play a piece of music, a traditional brass band piece of music entitled Bourbon Street Parade.
Bourbon Street Parade. C'est le morceau qu'on va jouer pour vous maintenant.
The group is comprised of two seniors.
Nous avons deux seniors, deux juniors et trois qui sont déjà là depuis un petit moment. Donc en fait, ce sont des lycéens qui sont en seconde, première et terminale. Et pour la plupart, c'est la première fois qu'ils viennent à Paris. C'est un privilège d'être ici à Continent Musique. Alors on y va.
Et on y va, ils ont déjà joué sur le toit de Radio France il y a quelques minutes et maintenant en direct sur France Culture et donc partout en France, The Chosen One Brass Band, on vous écoute.
Thank you.
Chosen One, Brass Band, en direct sur France Culture, en direct depuis la Nouvelle-Orléans, hein, puisqu'ils sont venus spécialement en France pour ce festival La Folie des Fanfares qui se tiendra ce samedi à la Villette à Paris. Wilbert Rawlins, vous m'avez fait signe juste avant qu'il ne commence, puisque vous savez très bien comment la musique fonctionne, c'est vous qui les dirigez de loin. Qui sont les musiciens que vous avez choisis avec vous? Quels sont ces choisis, Chosen Ones? Comment est-ce que vous les avez choisis?
Well, the chosen ones are a,
yeah, the chosen ones, c'est un groupe de musiciens sélectionnés avec la plus grande attention. C'est la crème de la crème parmi les musiciens des lycées. Nous avons Johan Davis, qui est en terminale, il part pour la fac. Il va à l'université à Baton Rouge, Cortez, qui est également parti pour la fac. Lui, il ne sait pas encore très bien dans quelle fac il va aller. Il a eu plusieurs offres de différentes facs. Il faut qu'il se décide encore. Il faut qu'il se décide vite, d'ailleurs. Ron J. Williams, lui, c'est un nouveau venu. Il remplace Kerry Schiff, et je dois dire qu'il travaille très très bien à la caisse claire. On ne savait pas s'il allait bien s'intégrer parce qu'il est particulièrement timide, très discret et tout. On lui a filé une caisse claire et paf, c'était parti, il s'est intégré dans le groupe. Sinon, Alice Smith, donc elle est dans le groupe depuis un moment. Elle est depuis le début en réalité. On l'appelle la First Lady, la première dame. C'est un peu comme Michelle Obama. Elle est saxophoniste. On l'adore, on s'occupe bien d'elle. C'est quelqu'un de très bien élevé qui s'exprime très bien et qui joue super bien du sax. Truman Sullivan, donc lui c'est un nouveau venu. Il est dans son lycée, c'est là qu'on l'a repéré. Et il travaille avec le NOCA. C'est une école d'art créatif à la Nouvelle-Orléans. Donc lui, il a reçu une éducation musicale et dans son lycée, il n'y a pas de fanfare. Donc, il a été formé, lui, et je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'une de mes sœurs. Bref, c'est une véritable joie que de l'avoir dans le groupe. Sinon, Lowell Mitchell, qui lui sort de nulle part. Il vaut vraiment nulle part, on ne sait pas d'où il vient. Donc, c'est lui, notre première trompette. Et notre Jaron Williams, surnommé Ours, c'était notre première trompette avant lui. Donc, dans Tremé, dont on voit Ours dans le documentaire et dans la série, et on pensait que ce serait difficile de trouver quelqu'un pour le remplacer, Bear. Mais Will est arrivé, et du premier coup, il a montré tout son talent, quelqu'un de très réservé. Et les filles à Paris semblent l'adorer. Il faut dire qu'il a une coiffure assez séduisante. C'est un type très réservé, timide. Mais partout où on va dans les rues de Paris, je ne sais pas ce qu'il a, mais il attire les regards des filles. Alors, Daniel Lewis, là, c'est quelqu'un de très talentueux. C'est un très chouette jeune. C'est la première fois qu'il intègre le groupe. C'est un jeune vraiment très chouette, il sait jouer du piano, il sait jouer tous les instruments. Dès qu'il voit un instrument, un sax ou autre, pas de problème. Ensuite, Terence Murphy. Alors, lui, c'est notre premier trombone.
Ouais. You're going to get a chance to meet him in a minute.
And he's a junior now. Donc lui, one of the leaders in the band au lycée.
Marching band and concert ensemble.
Et il a déjà pas mal d'expérience de fanfare. Il joue dans des groupes symphoniques, il joue dans des ensembles de jazz, il joue dans un groupe canadien. Et puis il joue dans notre groupe à nous, de la Nouvelle-Orléans. Sinon, Christian Barnes, c'est la première fois qu'il fait partie du groupe.
Elle first time here in Paris.
C'est la première fois qu'elle vient à Paris.
I'm sorry, she's going to the 12th grade. Wow, time.
Et elle passe en terminale.
She was playing a trombone.
Christiane, je l'ai rencontrée quand elle jouait du trombone juste à côté de chez moi à la Nouvelle-Orléans. Elle jouait, j'entends du trombone dans la rue et je la vois jouer du trombone.
Et
donc elle jouait ça avec une interprétation un peu libre. Je suis allé la voir.
Et
aujourd'hui, on est bien 4 ans plus tard et c'est un privilège de jouer avec tous ces jeunes lycéens. Et c'est formidable pour moi de leur montrer un petit peu ce dont ils sont capables en dehors de la Nouvelle-Orléans. On voyage, c'est formidable et on s'exprime par la musique. C'est absolument génial comme projet. Et voilà, je vous les ai tous présentés. Voilà, The Chosen Ones Brass. Je dois dire que là, vous les entendez, mais ils seront encore meilleurs la prochaine fois parce qu'ils n'arrêtent pas de s'améliorer. Et je leur ai dit que ce serait génial, qu'on allait faire des choses absolument super, et c'est le cas. On a nos musiciens qui, lui, fait des arrangements au piano. Voilà, donc on fait un chorus là-dessus. C'est pour montrer le talent des musiciens. Alors que certains qui ont besoin d'une éducation musicale très poussée pendant des années, là on a des talents, des gens qui sont extraordinairement talentueux.
I like that. Why haven't you been doing that?
Voilà, ça c'est I like that, c'est ce qu'on dit tous les autres quand les nouveaux sont arrivés. Ce qu'il nous faudrait, c'est une trentaine de jours en plus à Paris, parce qu'on a vraiment des choses à vous dire, à vous, ici à Paris.
Et
The Chosen One Brass Band, c'est très, très content d'être là. Et je dois dire que chacun des musiciens ici a vraiment bien travaillé pour arriver jusque-là. C'est une très, très chouette récompense. Et moi, je ne suis pourtant pas le chef d'orchestre le plus sympa du monde. Hein. Là, je suis en train de sourire, et peut-être qu'ils sont en train de se dire, il n'est pas si sympa que ça, Wilbert. Mais bon, bref, c'est The Chosen One Brass Band.
Mais oui, parce que c'est votre voix qu'on a entendue Wilbert Rawlins dans le générique hein, qu'on avait, c'est un extrait qu'on a pris dans la série Trémé où on vous entend entraîner les musiciens et voilà, certains trouvent que vous les cornaquez, hein, c'est-à-dire que vraiment vous, il y a une grande discipline, d'ailleurs vous faites un débrief quand vous êtes venu jouer il y a quelques jours au Centre Pompidou, sur la piazza du Centre Pompidou, à la fin de la prestation tout le monde était très enthousiaste, vous les avez emmenés à part pour leur dire ce qui allait, ce qui n'allait pas. J'aurais voulu poser une question à la Michelle Obama du Chosen One Brass Band. Elise, comment se fait-il qu'il y ait si peu de filles dans les fanfares rock?
There are so few women in the brass band.
Well, not many of the females in our band really likes. Well, most of them are scared of traveling.
Bah, il y a pas mal de filles qui ont peur de voyager. C'est pas qu'elles sachent pas jouer. Christiane et moi, on sait jouer, mais il y a pas mal de filles qui aiment pas prendre l'avion ou elles aiment pas bien voyager. Mais Monsieur Rollins, lui, voulait lancer un groupe avec que des filles. Peut-être qu'il y arrivera. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous d'être là. Et on viendra là avec The Chosen Ones et peut-être d'autres filles par la suite.
Bon, aucun problème alors. Et une question à Trevon Sullen, le trompettiste, qu'on voit souvent en tête des cortèges. Et on vous voit faire des gestes, notamment on vous voit vous taper la main. À quoi correspond ce geste? C'est le signe de départ, de changement?
Okay,
taper le front.
Ça signifie qu'il faut revenir au début, une sorte de coda. Donc on revient au thème initial et donc je tape sur le dessus de ma tête parce que les morceaux sont, les parties sont parfois interchangeables. Et donc il faut quand même qu'on se fasse des signes pour savoir revenir à la coda.
Et puis, il faut s'adapter au fait de... Voilà, vous êtes en déambulation, en train de marcher dans la ville. Et donc, il faut aussi prendre en compte le fait, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on reprend? Qui dirige la marche dans ce cas-là? Est-ce que c'est Wilbert Rawlins qui, derrière, décide de l'ordre de la marche?
The marching band is led by what's called the drum majors.
Il y a une section rythmique avec 4 ou 5 percussionnistes qui donnent des signaux avec un sifflet, par exemple. Alors, on a des baguettes et ce sont en fait les percussionnistes qui montrent leurs baguettes ou alors qui utilisent leur sifflet pour donner des signaux.
Vous avez parlé de ce documentaire « Whole Gritty City » qu'on peut trouver sur Internet. On en diffuse un extrait, on en discute juste après.
Man, when you can get out there and you get all these kids. to perform. And you get them to sound a certain way. All of your cares, all of your worries, I don't care if you just had something very tragic to happen to you in your life. Once that dance gives you that downbeat, and that music is right, and it's powerful and strong, just for that brief 2 or 3 minutes, you forget every problem you had. You have no cares in the world.
Un extrait de Whole Gritty City, un documentaire réalisé par Richard Barber et Andre Lambertson au cœur des fanfares des écoles de la Nouvelle-Orléans. Une ville, on le comprend en voyant ce film, mue par la musique, mais aussi par la violence, avec 365 meurtres par an. Un des moments forts du film, c'est l'enterrement d'un des musiciens, et on sait que un jeune a été tué par balle. Quelle a été l'importance et l'effet de la mort de General Dick Shavers, qui était un batteur, un éducateur, membre du groupe Hot Ace Brass Band? Ça a eu un effet déclencheur?
Mr. Donnell Shavers.
Donnell Shavers, right.
Yeah, he was a steadler for the Hot Eight Brass Band. And I mean, sometimes you just don't, I mean, we go through life every day and you know, some things happen and
la vie suit son cours, sans qu'on y prête attention.
Sometimes when they hit close to home, you know, I remember Donnell Shavers when he came
parfois
to me,
la violence
and he said,
frappe au plus près.
Think about starting a band at Rob Wynn High School.
Il voulait commencer un groupe à son lycée.
He knows how to play the instrument.
Il savait jouer de l'instrument, il avait le soutien de tout son groupe.
I said, let's go for it.
Et moi j'ai dit, on y va, on se lance dans ce nouveau projet.
Donc
on a commandé des instruments
et
puis tout à coup on a regardé la télé et puis Donnell Shavers était mort. Donc c'est toutes ces armes qui circulent aux États-Unis. En fait, c'est pas les armes qui tuent les gens, c'est les gens qui tuent les gens avec des armes. S'il n'y avait pas d'armes, il y a trop d'armes aux États-Unis. Et en réalité, quand je vous dis que ça touche au plus près, ça nous touche au cœur de notre communauté. Et à ce moment-là, on se dit, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on fasse quelque chose contre ça. Et c'est là que notre mouvement a été lancé, le mouvement dans cette communauté musicale. Parce que dans le temps, évidemment, les musiciens étaient sacrés, très, très respectés, même... Même si on monte très loin, lorsque les Noirs n'avaient pas accès à certains quartiers de la Nouvelle-Orléans, eh bien les musiciens afro-américains étaient quand même chéris, respectés, sacrés. Parce que pour faire venir les gens dans les bars, il fallait de la bonne musique, il fallait de bons musiciens. Si j'avais un très bon trompettiste, par exemple, eh bien, les gens se précipitent pour aller écouter et ils choisissent le bar en fonction de la qualité des musiciens. Et le propriétaire du bar, lui, considère que c'est la vedette, ce trompettiste, parce qu'évidemment, c'est son gagne-pain, propriétaire du bar, donc il faut bien s'en occuper. Et avant, c'était comme ça. On était intouchables, nous, musiciens. Schaeffer, lui, il est mort. Et puis il y a eu d'autres victimes, des musiciens aussi, et la communauté musicale a créé une espèce de coalition, un mouvement pour lutter contre ça. Et on se croit intouchable, mais il faut vraiment qu'on continue à travailler pour faire comprendre les méfaits de la violence. Sa sœur a créé une fondation, ils célèbrent son décès tous les ans, ils se réunissent, ils parlent des problèmes et ainsi de suite. Et c'est ça, la communauté des groupes. Les groupes savent occuper les jeunes, les lycéens, les collégiens, entre 17h et 20h. Qu'est-ce qu'on fait? On les empêche d'aller dans la rue? On leur fait jouer de la musique? Les musiciens sont des gens un petit peu plus malins que certains, peut-être, parce qu'ils ont compris que la musique permet de développer l'hémisphère droit, l'hémisphère créatif du cerveau, et ça permet aux jeunes d'apprendre à se concentrer. La musique, c'est ça. La musique, ça apprend la collaboration avec les autres, ça vous renseigne tout ça. Et là, à la Nouvelle-Orléans, évidemment, on est dans une baigne dans la musique, mais bref, donc on veut relancer un nouveau mouvement musical.
Voilà, et puis l'exemple que vous donnez, vous le racontez dans le documentaire, parfois c'est aussi un exemple vestimentaire. On vous a enseigné, Wilbert Rollins, qu'il fallait toujours avoir une cravate et une chemise et des chaussures noires. Et puis à un moment, vous apercevez que y a certains élèves, si vous voulez les convaincre que ça vaut le coup d'être dans la fanfare, vous mettez des baskets et vous leur montrez que vous avez vous aussi une belle voiture et que vous pouvez vous garer devant le poste de police sans avoir de problème et que voilà, la fanfare peut aussi être une issue et un développement. Kamel Dafri, vous êtes le directeur de l'Association des villes des musiques du monde. Quand vous faites venir cette fanfare précisément et son histoire et son rapport avec le quartier, avec les problèmes qu'a connu la Nouvelle-Orléans depuis 2005, depuis l'ouragan de Katrina, ça n'est pas un hasard. Vous avez tenu à leur faire rencontrer et visiter différents collèges du département de Seine-Saint-Denis. Pourquoi et comment se sont passés ces échanges ?
Alors, bonjour. Alors, effectivement, d'abord, plus préciser que la Folie des Fanfares qui aura lieu samedi 11, ce n'est pas un festival, c'est juste une séquence de visibilité du travail qui est effectué tout au long de l'année.
Oui, puis c'est gratuit, on vient.
Voilà, le festival Ville des Musiques du Monde, lui, il a lieu à l'automne, entre mi-octobre et mi-novembre. Il se trouve qu'en 2014, on avait une édition qui était dédiée à Congo Square, à l'âme africaine de la Nouvelle-Orléans. C'est à cette occasion qu'on a eu l'occasion d'inviter pour la première fois les Chosen One. Effectivement, dans un effet miroir qu'on avait envie de mettre en scène, toute proportion gardée, parce que la situation de nos villes et de nos quartiers en Seine-Saint-Denis, c'est une autre réalité que la criminalité qui sévit à la Nouvelle-Orléans. En même temps, cette histoire de la Nouvelle-Orléans, qui est la ville de musique par excellence, depuis son histoire avec la place Congo Square, qui a généré toutes ces musiques quasi universelles que l'on connaît tous aujourd'hui, c'est aussi ça qu'on avait envie de mettre en avant. C'est pas uniquement la dimension sociale. Effectivement, la dimension sociale des Chosen One, de la musique à Nouvelle-Orléans, elle nous intéresse au plus haut point avec le projet Ville des Musiques du Monde, parce que on considère que la musique, c'est pas qu'une approche que par l'esthétique. La musique, elle a une fonction sociale. Et pour le coup, il y a qu'à les entendre. Le charisme de Wilbert Rollins, il est important pour nous pour installer cet état d'esprit musical en Seine-Saint-Denis, auprès des mômes à qui on peut proposer autre chose que faire du foot, même à la veille de l'Euro, on peut avoir cette utopie de dire qu'effectivement, on peut faire grandir des jeunes en musique à partir du moment où on se donne les moyens. Et c'est vrai qu'on a besoin de facteurs d'exemple intéressants. La musique afro-américaine a toujours eu un attachement important auprès de ces jeunes de Seine-Saint-Denis. Et il se trouve que dans notre école des musiques du monde, que nous essayons de mettre en place en amont du festival, il y a ce parcours instrumental que nous mettons en place sur différentes villes, à Aulnay-sous-Bois, à Aubervilliers, à La Courneuve, à Drancy, dans des sites, à la fois c'est des centres sociaux, des services jeunesse, des collèges, des centres de loisirs. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, cet état d'esprit musical, il peut naître à partir du moment où on a des passeurs, des artistes, parce qu'on part d'artistes. On nous colle une image d'être soit trop social, soit trop ou pas assez artistique, ou finalement on s'en fiche. Nous, ce qu'on cherche, c'est être absolument inclassable, mais entouré d'artistes excellents. Mais en tout cas, de ne pas nier cette réalité de notre territoire. On veut pas être hors sol non plus, et on considère que la musique, c'est aussi une école de la vie. Et notre école des musiques du monde qu'on essaie de mettre en place depuis quelque temps au sein de Ville des Musiques du Monde, c'est tout simplement cette histoire qu'on a envie de raconter. Et finalement, on a envie de la mettre en musique. Et les Chosen One, pour le coup, c'est la porte-voix extraordinaire pour mettre en place ce projet.
Wilbert Rollins Jr., je précise. Quel a été votre sentiment à la rencontre de ces étudiants tout à l'heure? Vous m'avez dit ils sont super, tous ceux que j'ai rencontrés, je les ai trouvés formidables. Est-ce qu'il y a un moment que vous retenez qui vous a surpris, quelque chose que vous n'attendiez pas peut-être de la part de jeunes élèves français sur leur regard sur votre fanfare?
One particular moment, there's a whole bunch of moments.
Ah, il n'y a pas eu un seul moment, il y a plusieurs des moments particuliers.
Expecting to help to start music in different schools.
Je pensais qu'on pouvait peut-être contribuer à aider au lancement de différents mouvements musicaux, mais moi, ça fait 27 ans que j'enseigne la musique. Et lorsqu'on a évoqué le projet à Paris pour la première fois, je me suis renseigné et j'ai compris qu'il y avait des parents à Paris qui pourraient penser que les musiciens, en fait, sont pas des gens qui mènent une carrière, ils font la musique pour s'amuser. Et puis j'ai également compris que parfois, il y a des parents qui pensent que leur gamin serait incapable de jouer d'un instrument. Donc c'était difficile d'aborder le public français comme ça. Mais je suis arrivé et j'ai vu des visages pleins de lumière. Et en fait, des gamins qui ont envie de faire de la musique sont les mêmes, que ce soit à Chicago, à Nouvelle-Orléans ou à Paris. Ce sont les mêmes. Donc on s'est lancé. Et puis on s'est lancé. On a eu la barrière de la langue, évidemment, mais on a réussi à la surmonter, parce que la musique, c'est quoi? C'est jouer un instrument, il ne s'agit pas de parler. Donc, on a commencé à jouer, et puis après une journée ou deux, j'ai appelé ma mère, et je lui ai dit, tu sais, maman, je crois qu'on va y arriver à Paris. À mon avis, c'est jouable, à très grande échelle, d'ailleurs. Pas simplement faire du bruit à des jeunes. L'idée, c'est de vraiment créer des programmes, des projets musicaux dans des écoles, dans des communautés. Et moi, j'ai eu le privilège de travailler avec Aubervilliers, Drancy, La Courneuve, Aulnay-sous-Bois et Captonola. Donc, vous voyez, il y a là des individus d'une très grande diversité. Il y a parfois des petits-enfants qui arrivent à l'école. Il y a par ailleurs des adultes qui jouent de la musique une ou deux fois par semaine pour s'éclater avec la musique. Il y en a d'autres qui sont un mélange de tout ça. Par exemple, dans les... Il y a un centre artistique à Aulnay, par exemple. Il y a un père et ses trois enfants. Et ils viennent à ce centre à Aulnay et ils veulent tous jouer du trombone en même temps. Le père, il a une fille de 16 ans, une fille de 12 ans et une fille de 8 ans. Et ils sont tous à un moment différent de leur vie, mais les voilà tous avec le même instrument, le même trombone, tous les quatre en même temps. Le père, lui, il est devenu tellement enthousiaste. En fait, ils n'avaient qu'un seul trombone à la maison. Donc, il fallut qu'il aille acheter trois autres trombones. En bref. Et ils veulent tous jouer en même temps du trombone à la maison, ça va être quelque chose. Bref, mais c'est formidable de venir ici à Paris. Et moi, j'étais déjà venu à Paris, je vous l'ai dit. Et moi, je veux simplement montrer que la musique doit jouer un rôle très important à l'école. Il faut que tous les enfants aient la possibilité de savoir ce que c'est que la joie de jouer d'un instrument de musique. La musique, c'est pas différent de la langue, de l'histoire, des maths. Non, la musique, ça fait partie de tout un cursus d'éducation. Parce que la musique comporte en elle-même une espèce de capacité esthétique. Il y a dans la musique la langue, il y a la notion de travail. Chaque enfant doit avoir le privilège d'apprendre à jouer d'un instrument, de comprendre le vocabulaire, d'acquérir les compétences que la musique est prête à offrir. Donc, Ville de musique du monde, c'est un endroit où on peut se lancer et on peut commencer à montrer l'étincelle. Hier, tiens, par exemple, on a vu un groupe avec 12 membres, d'accord ? Ils sont 12 dans leur groupe. Et il y avait un public de quoi ? 40, 50 gamins qui veulent regarder leurs copains faire de la musique après les cours. Et à la fin du concert, il y en a 25 qui ont dit, eh bien moi aussi je veux faire partie du groupe. Et bien voilà, ça va être un sacré groupe. Hein. Et en rien de temps, en 2018, il va y avoir un groupe de 500 musiciens qui va défiler devant la Tour Eiffel. Hein. On va fêter ça et ce sera plus important que l'histoire des États-Unis et de la France.
On prend les paris. Wilbert Rollins et les Chosen Ones, je voudrais vous faire entendre la voix d'un clown très célèbre en France, le rapport d'un Français à la fanfare, un poète, acrobate des mots, une star de ce que vous appelleriez vous le stand-up. C'est Raymond DeVos qui chez lui travaillait dans une salle de musique au milieu des accessoires de prestidigitation, de ses instruments de musique. Il jouait du clairon, de la harpe, de la clarinette. Et en fait, c'était pas Raymond Devos qu'elle a rencontré, la journaliste de France Inter, mais un membre de la société musicale de Saint-Rémy-les-Chevreuses.
Dès que je suis arrivé ici à Saint-Rémy-les-Chevreuses, et dès que j'ai su qu'il y avait une fanfare, je m'y suis inscrit. Et il est surtout impressionné parce qu'il pensait, il se pensait que j'étais fort. C'était un très bon musicien, alors que c'est pas vrai du tout. Je suis un amateur, je bricole, enfin. Mais enfin, c'est pas ça. Et je me suis dit, moi j'aimerais bien. Il m'a dit, mais même défiler? Ah, mais j'ai dit, je ne recule devant aucun sacrifice. Il faut défiler dans la rue avec plaisir, je veux bien. De toute façon, on a une casquette, c'est vraiment sympathique. Moi je trouve que la fanfare, défiler en fanfare, c'est formidable, hein. C'est absolument pas bien. Et j'ai défilé une seule fois, parce que malheureusement, je suis seul. Et sous la pluie. Les dieux n'étaient pas avec nous. Mais enfin, ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance, sauf que les tambours, ça c'était un petit peu mou pour tout ça. Mais je veux dire que dès que je suis arrivé à la fanfare, j'ai fait la connaissance de tous ces gens-là. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une grande famille de musiciens, et une vraie famille, parce que ces musiciens de fanfare, ce ne sont pas des surdoués, bon, sans ça, bon, là, bon. Ce ne sont pas des professionnels, mais ce sont des musiciens dans l'âme. Voilà ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, ils font de la musique parce qu'ils aiment faire de la musique. Et alors, ça a été un moment fabuleux. Parce que, je vais vous dire, moi, je n'étais pas très fort, je jouais de la clarinette, je fais partie des pupitres, enfin des clarinettes. Et à côté de moi, il y avait un jeune clarinettiste, il y avait deux, trois, qui étaient vraiment très jeunes. Et alors, ils ne se voyaient pas si mal que ça. Et ils s'étaient rendus compte très vite que je n'étais pas très fort. Et alors, quand je faisais une fausse note, il me donnait un petit coup de coude. Il me faisait si gentiment, je veux dire qu'il y avait une complicité super. Mais ça, ce sont de beaux souvenirs. C'est ça, là-bas, ce qu'on pourrait pas faire dans une chose officielle.
Je vais vous faire une petite sonnerie. L'attaque!
Chaque fois que je sonne l'attaque, je repense à mon grand-père. Parce que mon grand-père a rendu son dernier souffle dans ce clairon.
Sur le champ de bataille, s'il vous plaît. Il sonnait l'attaque
et l'ennemi a attaqué.
Et voilà, Raymond Devos en fanfare, c'était pour le 31 décembre 86 sur France Inter. L'importance de l'attaque quand on joue du clairon, et puis des fausses notes ou des coups de coude qu'on peut se donner. Votre impression, Hubert Rollins, à ce que vous venez d'entendre, il y a toujours un lien avec, il y a des racines militaires en fait, toujours dans les musiques de fanfare.
Oh yeah, I mean, I think everything comes from the military, right?
Ah ouais, tout vient des militaires.
We back from the one snare drum and a fife.
Donc ça remonte à la caisse claire et une petite flûte.
Even in a marching band, you know, marching
band. Et même dans une fanfare qui déambule.
Like you say, march.
Eh bien,
to, like this march
on marchait au pas. Jean-Philippe Suzanne et ainsi de suite. Ça, c'est une tradition américaine, mais évidemment, les fanfares ont évolué. Dans le sud, ça a une tournure contemporaine avec Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder. Et donc, vous voyez, ça a évolué. Mais pour répondre à votre question, tout vient de la musique militaire pour les fanfares.
Alors, puisque l'émission s'appelle Continent Musique, on va se déplacer de la Nouvelle-Orléans en direction de la Barbade.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Barbados de Charlie Parker, avec en plus Miles Davis et Max Roach. C'est pas des disques de jazz que vous avez choisi, Marc Marais, mais du côté de la Barbade. C'est pour ça qu'on avait choisi ce titre, Barbados. Et vous avez trouvé quelques perles dans la discothèque, mais aussi chez Crocodisc à Paris.
Oui, tout à fait. Alors, je vous propose un petit voyage sur cette petite île, donc la Barbade, de son nom Barbe en portugais.
La Barbu.
Le Barbu, évidemment. Et là, je vous propose de se plonger vraiment dans un des groupes qui, après Rihanna, est le plus connu, qui s'appelle The Merry Men, qui est vraiment, on va dire...
Vous les mettez en parallèle avec Rihanna, carrément.
Ah bah oui, parce que Rihanna est vraiment de la Barbade. Ah, oui, donc, c'est vraiment la star locale. Mais ce Merry Men est vraiment ce qui a ponctué, un peu comme le Golden Gate, ce qui a ponctué réellement le groupe phare de l'île.
Ben on les écoute, c'est un disque donc qui date de 76, je crois. Stronger than iron, not only the young men doing the thing, even the old men bumping. West Indian piston, stronger than iron, not only the young men doing the thing, even the old men bumping. If you wanna get it pumping, West Indian piston. West Indian Piston, The Merry Men, ça c'est l'album de Caribbean Pepper Pot with The Merry Men, un disque édité chez Merry Disc en 1900, ça n'a aucun rapport avec Mary de Monegatti, même si c'est elle qui est au platine à vos côtés, Marc Marais. Alors, parmi les autres, il y avait beaucoup de choses que vous avez trouvées dans la discothèque et chez Crocodisc, mais il y a un autre volume qui vous a beaucoup plu, c'est celui-ci, là, qui est avec une carte découpée.
Alors, c'est celui-ci, c'est ce fameux...
Ah non, oui, c'est l'autre.
Rose Punch. Alors, le Spooch, évidemment, est plutôt un style de musique très populaire... sur l'île de la Barbade.
J'en profite pour montrer la pochette aux musiciens dans ce studio, parce qu'elle est assez éloquente.
Hein. Éloquente, oui, c'est vrai, mais on retrouve souvent le canon sur toutes les pochettes de disques, donc je pense que ça a vraiment une signification bien précise. Mais
c'est-à-dire qu'ils sont placés, il y a un très gros canon qui est placé entre les jambes d'un des musiciens.
C'est ça, je n'osais pas le dire. Merci Mathieu de nous le signaler, c'est vrai. Et là, on est vraiment aussi, alors c'est vrai que c'est une petite île, hein, ça fait 23 km par 32 km, mais il y a énormément de groupes qui se partageaient un peu toutes les grandes soirées de fêtes. Et en tout cas, ce disque donc de The Drone Tones 2 et cet album qui s'appelle Rope Sponge est vraiment assez extraordinaire. C'est vraiment le coup de cœur et la pépite qu'on a découverte.
On les écoute. Can't keep a good man down par The Draytons. Vous me disiez, Marc Chaunier,
que c'était dingue à quel point ça avait vraiment influencé la musique anglaise jusque Elvis Costello. Je trouve qu'on entend vachement les Attractions dedans.
C'est vrai,
effectivement.
Une belle remarque.
Wilbert Rollins, est-ce que vous êtes familier avec le répertoire de la Barbade? Alors sans doute que tous vos élèves écoutent Rihanna, ça j'imagine. Est-ce que vous êtes familier avec les groupes, les musiques de la Barbade?
I'm familiar, but not that familiar.
Ça, je connais, mais pas plus que ça.
Et une dernière découverte, il y a un troisième vinyle avec lequel vous êtes venu, Marc Marais. Ça, c'est les Tradewinds.
Oui, les Tradewinds avec un leader assez charismatique qui s'appelle Dave Martins, qui est un peu le Elvis Presley de l'île, qui a énormément popularisé cette fameuse musique. Alors, effectivement, la Barbade, c'est une petite île, mais c'est vrai qu'il se déplaçait beaucoup d'île en île. D'ailleurs, on avait vu et entendu ça lors d'une dernière émission. avec
Calypso Rose.
Avec Calypso Rose. Et c'est vrai qu'il voyageait beaucoup, beaucoup d'île en île. Et là, on est vraiment, on part donc avec ce Dave Martins qui est connu dans les Caraïbes comme le fondateur et le leader d'un style de musique, voire même d'un style de vie. Et il a écrit à peu près tous les tubes et entre autres a popularisé beaucoup Harry Belafonte.
On écoute alors.
Shaking up the whole of Kingston, talking about the reggae beat. Heavy like a diesel engine, picking up a heap of strain. People on a reggae railroad, riding on a reggae train. You better get aboard a reggae train. Take a reggae ride, get aboard a reggae train.
Merci Marc Maré pour cette sélection de disques venus de la Barbade. Et puis je signale, c'est très important, on en a déjà parlé, mais il faut le rappeler, il y a vous vous préparez pour une grande vente aux enchères des exemplaires en double ou en triple de la discothèque de Radio France, une grande vente aux enchères des vinyles de Radio France. Ce sera dimanche 19 juin prochain à 14h dans la maison de la radio. Wilbert Rollins est très impressionné par le Surnatural Orchestra, un des groupes que vous suivez, avec lequel vous travaillez de longue date. Marc Chenier, vous nous le situez, ce Surnatural Orchestra ?
Surnatural Orchestra, c'était à l'origine une fanfare, un brass band, qui s'est plutôt installé sur la scène française et qui maintenant est un vrai big band, qui travaillent avec aussi bien des circassiens qu'avec toujours avec leur propre répertoire. Ils ont fait quelques reprises au début, mais plus maintenant. Et c'est surtout un groupe sans chef, sans directeur. Personne ne dirige, il n'y a pas de nom. Ça amène à des discussions sérieuses. Et non. Ça fait 15 ans qu'ils existent et il n'y a toujours pas de chef. Depuis le début, il y a certains membres qui sont là vraiment, qui sont restés, mais il n'y a pas de chef dans cette fanfare. Ça peut amener de très très longues discussions, dans les voyages en bus, dans les beaucoup d'AG, beaucoup d'assemblées générales, mais ça
c'est
marche.
Nuit debout,
pour l'instant, c'est nuit debout, c'est bus debout, c'est nuit debout, c'est concert debout, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche.
Le Surnatural Orchestra, donc avec lequel vous travaillez depuis longtemps, Marc Chenier. Marc Chenier, je le disais au tout début de l'émission, vous êtes un homme aux vies multiples, mais toujours musical, puisque vous êtes attaché de presse, vous vous occupez de la communication du festival Banlieue Bleue, entre autres, ce qui fait que vous vous connaissez avec Kamel Dafri, hein, forcément, mais aussi vous vous occupez de groupes de tout poil, hein, qui soient surnaturels ou hyper cultes. Quand on choisit le métier d'attaché de presse, visiblement c'est un peu hasard, parce que vous me disiez que vous n'aviez pas choisi, ce sont les circonstances qui vous y ont conduit. Est-ce que ça signifie désormais que vous choisissez les musiciens que vous voulez défendre et faire connaître ?
Alors oui, j'ai pas choisi du tout ce métier et j'ai plutôt de la chance d'être tombé sur ce métier puisque quoi qu'il arrive, je voulais travailler pour la musique et dans la musique. Donc c'était plutôt un beau hasard que ça me tombe dessus un peu comme un cadeau. Et aujourd'hui, oui, parce que ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier, je choisis les groupes pour lesquels je travaille, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je dois avouer quand même que Banlieue Bleue, qui est le festival pour lequel je bosse depuis le plus longtemps, ça fait 20 ans maintenant que je travaille pour Banlieue Bleue, donc qui est sur le même territoire que Villers Musique du Monde, et qui est un festival qui a 33 ans, on fera la 34e l'année prochaine, a été pour moi un grand facteur de révélation. J'ai rencontré énormément de musiciens avec qui je joue, parce que donc il y a aussi Gaspard Lanuit.
Il y a aussi la casquette musicien, chanteur.
Donc il y a beaucoup de musiciens avec qui je joue, ou avec qui j'ai joué, et peut-être avec qui je jouerai. Et beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui, que j'ai rencontrés, soit que j'ai sollicité, parce que j'ai vraiment aimé leur travail et que j'ai eu envie de travailler pour eux, soit qu'ils m'ont sollicité parce qu'ils m'ont vu travailler et que ça leur a donné envie de collaborer.
Kamel Dafri, vous qui vous occupez de festival Ville des Musiques du Monde, je crois que ça existe depuis 97, et vous étiez investi auparavant du côté de Flers avec Rock Azimut. Il y a un rapport avec Banlieue Bleue, finalement, il y a une forme d'action commune.
Alors, c'était Musique Azimut en Normandie, c'était mes années normandes, parce que je suis originaire de Normandie. Un vrai métèque de Normandie, finalement. et c'est vrai que, pour rejoindre ce que disait Marc, Banlieue Bleue a été pour nous aussi une source d'inspiration. Moi, j'ai le souvenir du concert de Donald Harrison Jr. à Banlieue Bleue, le Big Chief, qui relate aussi cette histoire de marronnage, quelque part, qui nous est chère, parce que finalement, on n'avait pas... je sais que Banlieue Bleue avait rendu hommage à la Nouvelle-Orléans il y a quelques années, et nous, on avait voulu plutôt travailler sur l'âme africaine de la Nouvelle-Orléans, en insistant sur cette histoire de Congo Square, pour tout simplement créer un effet de miroir avec, effectivement, mon histoire personnelle, elle fait écho forcément à mon histoire professionnelle, et j'ai une chance inouïe de faire ce métier pour ça. Du coup, ma thérapie, elle me coûte moins cher que pour d'autres, mais en même temps, je trouve qu'on est utile. Et c'est ça, la question de se dire aujourd'hui, on peut être artistiquement à la pointe et utile et efficacement utile. Voilà, c'est un peu le credo qu'on essaie de défendre. Mais finalement, au bout de 20 ans, on arrive à trouver un équilibre entre les deux registres.
Marc Chenier, on va parler d'abord de la casquette attachée de presse. Est-ce qu'il y a un profil type, finalement, puisque tous ceux qu'on est amené à rencontrer par notre travail, finalement, viennent d'horizons très différents. Il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, d'ailleurs. La répartition est plutôt bonne. Il y a un profil type des attachés de presse musique, hein, puisque bon.
Le seul lien que je verrais entre tous les attachés de presse que je connais moi, avec qui je collabore, parce qu'on collabore régulièrement, moi en tant que par exemple Banlieue Bleue, je collabore avec des attachés de presse qui ont des sorties de disques à Banlieue Bleue par exemple, c'est principalement un amour de la musique en fait. C'est-à-dire qu'on vend pas du sucre, on vend pas des voitures. Et si on fait ça, on pourrait pas le faire, enfin je pense pour une majorité, je peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, on pourrait pas le faire si on aimait vraiment pas ce qu'on défend. Et c'est vraiment important pour nous. Après, je pense qu'on vient tous d'origines différentes, de milieux sociaux complètement différents, et je pense pas qu'on puisse établir un profil type à part l'amour de la musique.
Vous avez fait, vous, des études de droit et d'anglais, puis une école de musique comme batteur, mais vous en sortirez chanteur. Et puis, vous avez fait beaucoup de métiers. Alors, je donne la liste parce qu'elle est assez géniale. Enquêteur téléphonique, rétenteur d'huile pour un fast-food, guide d'aveugle, barman au théâtre du Châtelet, vendeur de vêtements, libraire. Ça, visiblement, vous souhaitez, vous rêvez un jour de...
Ça, ouais, ça reviendra, ça.
Revenir. Ouais. Et puis, vous avez travaillé au service com de la Ligue des droits de l'homme au moment où vous étiez objecteur de conscience, puisque vous n'avez pas souhaité faire votre service militaire. On en revient toujours au rapport
à l'armée,
vous voyez. Et puis, vous avez aussi travaillé chez EMI, chez EMI Classics. Qu'est-ce que vous avez appris de ce passage en major? Puisque EMI, c'est une des majors du disque.
Qu'est-ce que j'ai appris de ce passage en major? C'était mes tout débuts, en fait. C'était les premières choses que j'ai faites, c'était mettre des disques dans des enveloppes et servir des coupes de champagne dans des cocktails, en étant mal. L'assistant d'assistant. Mais j'en buvais pas, je faisais que les servir, je les buvais à la fin, je finissais les bouteilles à la fin. Et ce que j'ai appris, c'est le premier rapport aux journalistes. Et aussi, une des premières choses que j'ai apprises quand même en major, c'était à défendre des choses que je n'aimais pas. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, en fait. Parce que en major, on défend les disques que la major sorte, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, et on est obligé de dire du bien, principalement. Et c'est quelque
vous
chose.
Vous n'y arrivez pas.
Bah, je pourrais très bien le faire, si. Bah, je pourrais très très bien le faire, mais ça m'intéresse pas en fait. Par contre, de défendre des choses qui m'intéressent pas, je suis pas là pour ça.
Il va y avoir une étape importante ou une année un petit peu charnière. Quand on, voilà, vous m'avez envoyé quelques points biographiques, Marc Chenier, c'est l'année 97-98, qui est un peu une forme de tournant, puisque c'est vos débuts pour le festival Banlieue Bleue. Vous allez rencontrer un tas de musiciens comme Ornette Coleman, Michel Portal.
Et une équipe.
Et une équipe,
celle
du festival.
Ouais.
Et puis, côté travail personnel, vous allez aussi, d'un coup, créer le personnage, ou en tout cas le nom, de Gaspard Lanuit, qui est votre nom d'artiste. Qu'est-ce qui se noue à ce moment-là? Comment ça se fait que les deux soient liés? Votre existence
chanteur Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, c'est un moment où je quitte une major du disque, où je me rends compte que je suis en train de devenir attaché de presse, en fait, et que ça va devenir mon métier, que je vais arrêter justement de faire des enquêtes par téléphone, des frites dans des supermarchés, des trucs comme ça, et que, en fait, on me propose dans cette major un contrat avec un salaire, de l'argent, et je quitte ça, et je décide de prendre une certaine forme de liberté, en fait. À mes risques et périls, vraiment, à ce moment-là. J'ai 27-28 ans, et parallèlement, je sors parallèlement d'une école de chansons que j'ai faite à ce moment-là, où il faut que je me prenne en main pour défendre mes chansons. Et donc, je crée, et je me dis, à ce moment-là, en allant sur scène, il faut que je crée un personnage, en fait. Il faut que je sorte de Marc Chenier et que j'imprime une identité sur scène, et Gaspard Lanuit arrive à ce moment-là. Je pense que c'est une prise de liberté, en fait, à ce moment-là. Une prise de conscience du besoin de liberté.
Je ne me reconnais plus, étranger en terre promise. Je ne suis plus tel que je me suis connu.
Pauline se trouve que ça lui fait penser à John Myers.
Oui, c'est pas du tout une influence sur ce disque, mais ça fait plaisir.
Oui, parce qu'une de vos influences, ça va être beaucoup la chanson française, quand vous êtes sous le nom de Gaspard Lanuit, mais aussi le rock en fait. Le groupe The X, par exemple, ça a été une forme de choc.
Alors, le groupe The X, c'est un des groupes qui m'a sauvé la vie même, presque.
Bah, comment ils ont fait?
En fait, j'ai un soir où j'allais vraiment pas bien, pour plein de raisons différentes, aussi bien sentimentales que musicales, ou j'étais vraiment au bout de quelque chose. J'étais voir The X dans un autre festival qui s'appelle Son d'hiver.
The X qui est un groupe de punk.
Qui est un groupe de punk qui vient de la scène punk néerlandaise et même arty néerlandaise. Et je les ai vus sur scène. Ça fait 33 ans qu'ils jouent ensemble, 35 ans maintenant, je pense. Et ça a été une sorte de claque qui m'a dit, mais réveille-toi, quoi. Réveille-toi. Et voilà, et ça a été vraiment. Moi, je venais du rock, en fait. Quand j'étais enfant, j'écoutais beaucoup de rock, etc. Après, mon premier parcours en tant que Gaspard Lanuit, c'était vraiment la chanson un peu rive gauche. J'ai voulu vraiment m'extirper de ça, et les rencontres aidant, et le fait de me replonger dans tout ce que j'ai écouté jeune et de redécouvrir la scène rock d'aujourd'hui m'a vraiment amené à ce que je fais aujourd'hui en tant que Gaspard, en tout cas.
Et alors pourquoi ce nom de Gaspard Lanuit? C'est d'abord Ravel ou la nouvelle qui a inspiré?
C'est d'abord Ravel. C'est d'abord Ravel, c'est pas les poèmes d'Aloysius Bertrand. C'était une époque où, c'était l'époque où j'étais EMI, et donc EMI au début il me payait beaucoup avec des disques aussi, et dont la version de Gaspard de la Nuit par Samson François. Et j'écoutais ça énormément à ce moment-là, et je trouvais le nom magnifique. Et dans un souci peut-être pré-révolutionnaire, j'ai décidé de couper la particule et d'enlever le 2 et pour en faire Gaspard Lanuit. Et c'était très drôle parce qu'à un moment où j'étais encore à l'école de chansons à la fin, et au moment où j'ai annoncé ça, on m'a dit, mais c'est ridicule, ça sert, pourquoi tu fais ça, pourquoi ce nom, ça te va pas, etc. Et finalement, c'est encore là et ça me plaît.
Au passage, puisqu'on parle de nom, vous me confiez que votre nom, Marc Chaunier, vous avez découvert qu'il avait été... en fait, c'était pas le nom de vos parents, c'est un nom qui avait été changé, et vous avez eu des difficultés.
Alors,
en fait, c'est pas possible de
le récupérer. Non, alors je l'ai pas découvert. Je suis né, moi, avec mon ancien nom, mon premier nom, qui était Chojnevski, et... À ma majorité, mes parents ont changé de nom, mais j'étais pas encore majeur, donc je pouvais pas choisir. Et des années après une certaine forme de thérapie aussi, j'ai décidé de...
Ah, on vient soit à l'armée,
merci Kamel. J'ai décidé de récupérer mon nom, et ça n'était pas possible. En fait, en France, la loi a changé, hein, mais en France, à l'époque, on pouvait franciser un nom, mais pas le complexifier. Depuis, la loi a changé, je pourrais le reprendre finalement. Mais maintenant, j'ai porté plus longtemps le nom de Chaunier que Chojnevski. Et donc voilà, je vais le garder finalement. Et l'histoire, c'est ça. C'est aussi les noms qui changent, les villes, les mouvements de population, et ça en fera partie.
Vous avez choisi, vous avez beaucoup hésité entre plusieurs disques personnels.
C'était difficile, oui.
Vous êtes même venu avec trois, vous m'avez dit, ah, c'est toi qui vas choisir.
C'était un peu ça, c'est vrai.
Et finalement, vous avez choisi Moody Blues. Quelle histoire avec ce disque ?
C'était un des premiers 45 tours. J'avais un manche-disque quand j'étais petit, un des premiers 45 tours que j'avais, les 45 tours ESSO ou Total. Il y avait Honky Tonk Man des Rolling Stones et il y avait Days of Future Past. Donc il y avait la face A, c'était Night in White Satin, qui est un tube monumental. Et la face B, c'était Tuesday Afternoon, qui m'habite encore aujourd'hui, quoi.
Afternoon, I'm just beginning to see. Now I'm on my way. It doesn't matter to me, chasing the clouds away.
Moody Blues, est-ce que quand vous les écoutez, vous avez la même gestuelle que quand vous êtes sur scène sous le nom de Gaspard Lanuit, Marc Chaunier ?
Non, je pense pas. Quand je les écoute, c'est très personnel. Et la gestuelle sur scène, c'est plus quelque chose de plus instinctif qui vient pour exprimer... parce qu'il y a les mots en plus quand je suis sur scène, donc j'exprime en même temps les mots et les gestes vont avec les mots que je dis.
Là, c'est un côté presque danse contemporaine hein, quand vous êtes sur scène.
On m'a dit ça en fait une fois, un danseur contemporain m'a dit ça une fois et je m'en rendais pas du tout compte en fait. C'est vraiment des gestes qui viennent à l'instinct et j'ai jamais travaillé ça, il faudrait peut-être finalement.
Cold-hearted art that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow is white, but we decide which is right and which is an illusion.
I'm just beginning to see. Now I'm on my way.
Merci Hubert Rollins pour cette lecture du en fait c'est un petit poème qu'on peut trouver au verso du vinyle de Moody Blues. Marc Chaunier, merci, on arrive au terme de l'émission. Merci, on peut retrouver vos disques sous le nom de Gaspard Lanuit. On peut les retrouver partout dans le commerce, il y a un album qui sortira l'année prochaine. Je signale que vous occupez du festival Mince Alors, c'est dans le village de Mince en Isère, c'est en Rhône-Alpes, ce sera du 8 au 13 août prochain avec une très jolie programmation. Le Chosen Was Brand, oh, c'est pas possible. Le Chosen Chosen One Brass Band de la Nouvelle-Orléans. Hubert Rollins, merci beaucoup à vous tous d'être venus. Vous êtes à l'affiche de la Folie des Fanfares. Ce sera ce samedi au Parc de la Villette. C'est gratuit de 15h30 à 22h. Merci beaucoup, Kamel Dafri. La suite, c'est à vous, Meryl Moenegatti.
C'était Continent Musique, un magazine de Mathieu Conquet, équipe de réalisation Olivier Guérin avec Jean-Guilain Meige et Pierrick Monsigny. Préparation et archives, Meryl Moenegatti avec Sandra Escamès de l'INA. Rendez-vous sur le site de France Culture pour podcaster Continent Musique. Et un grand merci à Marc Marais et à Michael Simon de la discothèque de Radio France.